ahí va Alberto, Contador. Ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte Andy final. Schleck. Como una moto,
Nibali, 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 andato.
Nibali, prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Metri, dietro si voltano, dietro si voltano.
Lascele Watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lance, sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouveau débrief by Dossard 13. On se retrouve aujourd'hui, 3 semaines après notre preview du Giro, pour le débriefer. Il y a eu de belles choses, entre passion pour la course rose, des nombreux cas de Covid, beaucoup de pluie, de la chute, de la malchance. Ouais, ça a été un Giro qui a jonglé entre bonheur et frustration, parce qu'on a eu quand même eu de très belles choses. Mais ça reste un Giro qui, en termes de spectacle, reste assez mitigé. Et pour parler de ce Giro, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va super, hein, mais voilà, c'est un lundi de lendemain de fin de Grand Tour, donc toujours un peu un petit air de cafard, un peu de tristesse, mais il y a heureusement de nombreuses belles courses qui arrivent. Et toi, Luca, la forme ?
Ouais, je dirais que t'as très bien résumé la chose, un peu cette impression de gueule de bois.
Ouais.
Mais on va dire ce Giro a été à mes yeux quand même moins marquant que certaines éditions, ou tout simplement peut-être que la hype a été un peu redescendue suite à l'abandon par exemple de Remco Evenepoel sur Covid après le chrono qu'il a très très bien remporté sur la 9e étape malgré son cas de Covid. Mais ouais, comme tu l'as dit, ça a été quand même un beau Giro, on a vécu de belles émotions.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs des lendemains de cuite, j'ai l'impression, dans ce Giro. Déjà, le ciel nous est tombé sur la tête après l'abandon de Remco. Les termes sont un peu gros, mais c'est vrai que le voir abandonner le soir d'une victoire de chrono, putain, franchement, ça fout les boules. Alors, moi, je le trouvais, tu seras peut-être pas forcément d'accord, mais alors Remco, je le trouvais une jambe au-dessus des autres. Mais attention, faut nuancer, il était qu'une demi-jambe au-dessus de Tao de mon avis à moi. Mais il va quand même nous claquer un chrono en étant positif au Covid. Alors ça, je n'ai pas le souvenir qu'on a eu ça sur ces 3 dernières années.
Bah, moi, ce que je trouve un peu dommage quand même sur la gestion du cas Remco, c'est que tout simplement, c'était la veille d'une journée de repos. Et je trouve que ça a été fait un peu dans la précipitation. Ils ont fait l'annonce à 23h. Ils auraient pu calmement attendre, on va dire, le lendemain, voir comment ça évoluait pour son cas à lui. Mais après, ça a été assez prudent de la part de la Quick-Step de le faire abandonner, parce qu'on sait qu'on ne connaît pas encore toutes les répercussions du Covid sur le corps humain, notamment au niveau du cœur. Mais au final, ça a quand même été un choix assez judicieux, parce qu'on le sait que deux étapes plus tard, on a quasiment toute la Quick-Step qui a abandonné, si je dis pas de bêtises, c'était après le jour de repos, tout simplement, où il y avait 4 Covid entre Cataneo, Cerny, Hirt et Verbeek. Donc, grosse hécatombe au sein de la Quick-Step. Et l'image qui m'a fait bien rire de mon côté, c'était que du coup, il y avait 5-4 Covid. Les 5 étaient dans le même hélicoptère après... après l'étape qui arrivait à Campo Imperatore, si je dis pas de bêtises, au Gran Sasso. Donc c'était quand même assez marrant, mais on le savait que le Covid tournait dans ce Giro. Je trouve que certaines équipes ont manqué de prudence. Mais sinon, pour revenir sur les performances purement sportives, c'est sûr que Remco, on le sentait quand même assez facile, mais c'est sûr que le second quasiment favori au fil des étapes, qui semblait vraiment solide, c'était Tao Geoghegan-Hart, qui a lui lourdement chuté sur la 11e étape et qui a malheureusement dû abandonner. Mais voilà, comme tu l'as dit, quand même beaucoup de malchance, quoi. Le fait que aucun des leaders aussi ne se sente supérieur pour jouer la gagne après l'abandon de Remco, on a senti quand même beaucoup d'attentes et tout le monde a misé sur le dernier contre-la-montre au Monte Lussari. La course était cadenassée Et on peut noter quand même qu'il y avait deux facteurs. Bah, les coureurs font la course, comme toujours, et l'organisation qui pose une montée que tout le monde redoute à la fin du Giro. C'est sûr que ça, tu peux avoir de l'attentisme, mais tu peux avoir peur tout simplement.
C'est vrai que les coureurs, ça se voit, ils voulaient pas prendre le risque de tenter de gagner une ou deux minutes. À chaque fois, les attaques qui étaient placées, c'était pour aller gagner 10-15 secondes en fin d'étape, quelque chose comme ça. Ils avaient tous peur de devoir limiter la casse. Et ouais, comme dit, tout s'est joué sur le dernier chrono, donc un peu dommage pour le spectacle. Après, on n'est pas à leur place, ils ont tous leurs bonnes raisons ou pas. Et heureusement, on a quand même pu profiter avec beaucoup de belles échappées. Et après, je voulais juste revenir sur un point, on avait fait un débat à la con quand même sur la preview du Giro, c'était qui entre Roglic et Remco tomberait le premier. On s'était dit que c'était un peu pas méchant, mais c'était peut-être malvenu, mais on en avait parlé quand même. Et ben au final, force est de constater que ça a marché. Remco nous fait une étape spéciale chute, ils nous en fait une au début et à la fin de l'étape. Et t'as Roglic qui tombe aussi avec Tao et compagnie, donc bon, c'est bizarrement c'est toujours les mêmes, donc je sais plus quoi dire. Moi.
Et en parlant de chute, faut quand même mentionner aussi le cas Jeff Vine. On va juste mentionner ça, mais c'est j'ai jamais vu un mec aussi peu tenir sur le vélo quand même. C'est hallucinant.
Et déception aussi de pas avoir eu le droit à la 13e étape en intégralité. On a eu seulement 74 km de course avec une météo qui s'annonçait capricieuse. Finalement, pas plus de pluie que ça sur le Saint-Bernard. Et les coureurs voulaient initialement courir. Le CPA et l'Orga, des clowns. Je sais pas quoi te dire de plus. Moi.
Non, mais c'est sûr que c'est dommage. Parce que c'était l'une des étapes reines aussi de ce Giro.
Bah ouais.
Et le voir que tout simplement... Le comité des coureurs qui prend la décision de ne pas faire aussi cette étape en intégralité alors qu'aucun coureur n'était d'accord avec lui, tu te dis il sert à quoi dans ces cas-là, donc c'est juste qu'il faut un peu de cohérence et malheureusement ça n'a pas été le cas.
Ouais, c'est dommage après parce que c'est vrai que l'étape sur 74 km on s'est dit bon ça va peut-être être une course folle, puis au final pas non plus tant que ça, à part pour nos Français, on le verra après, mais ouais, des regrets sur cette étape-là en particulier, je pense.
On parle aussi maintenant, on va pas les oublier quand même, parce qu'il y a quand même un joli spectacle et un joli duel entre Roglic et Geraint Thomas jusqu'à la dernière étape, même de Rome, où on a vu que Ineos a tenté de piéger, pourquoi pas, Roglic, parce que l'écart était encore assez faible. On a eu un joli suspense dans la montée de Montelusari avec tout simplement un joli duel entre un Geraint Thomas qui a pris son temps pour le changement de vélo et qui a aussi changé de casque. Et de l'autre côté, t'as un Primoz Roglic qui a tout simplement déraillé sur un monoplateau. Alors ça, on ne l'avait pas encore vu depuis mon déraillement en fixie alors qu'il y a seulement un pignon fixe. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais je pense que tout simplement, ce saut de chaîne a été un mal pour un bien pour Roglic qui a été complètement malade sur la dernière partie de ce contre-la-montre et qui a tout mis comme si sa vie en dépendait, et il a explosé Geraint Thomas sur cette dernière partie. Là il a été exceptionnel et il s'est vengé par rapport à la planche de Belfie qu'il avait perdu en 2020. Et Primoz Roglic qui remporte un autre grand tour après ses trois Vuelta en 2019, 2020, 2021. Il remporte maintenant le Giro, donc ça fait 4 grands tours pour lui en plus de ses nombreuses autres courses par étapes. Il se positionne encore plus un peu dans le panthéon du cyclisme all-time.
Ouais, clairement. On était ensemble avec Luca pour le chrono. Putain, franchement, quand Roglic se déraille, on se dit non, pas encore. Et le mec a toujours une couille, même quand. Enfin, là, vraiment, ça paraissait improbable de dérailler de la sorte. Mais bon, Roglic a vaincu la malchance et franchement, il mérite. Ensuite, on va passer à la multitude de sprinteurs sur ce Giro. Multitude, parce que 7 sprints, 7 vainqueurs différents. Et on finit en apothéose. Dans l'ordre, On a eu le droit à Milan qui s'est vraiment imposé comme l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Matthews, Groves, Pedersen, Ackermann, Dainese et enfin Cavendish. Et oui. Vous savez tous, hein, je suis archi fan de Cavendish, mais j'ai su me montrer critique avec lui. Et ben, il m'a fait fermer ma gueule, voilà. Clairement, sur la dernière étape, on a eu le droit déjà à la belle image de Thomas Gerrans qui vient aider à positionner Cavendish et son poisson pilote Luis Leon Sanchez. Et Cavendish, bah, qui nous sort une masterclass sur son sprint. Moi, j'ai une théorie selon laquelle, à plus t'es vieux et à plus pour marcher sur une course, il faut faire de course avant. Donc, je pense que bah, à ce rythme-là, tu mets Cavendish encore sur deux courses d'une semaine et il devrait être meilleur sprinter du peloton sur le prochain Tour de France, tout simplement.
Ouais, ça va être quand même un peu différent parce que tu vas retrouver certains gros noms du sprint mondial, comme genre, par exemple des Jakobsen. Mais oui, c'est sûr que Cavendish, on a été mauvaise langue. Au final, il s'est bien accroché sur les étapes de montagne et il a fait tout simplement parler sa pointe de vitesse sur un sprint qui lui convenait parfaitement. Un peu de pavé aussi, comme si on était sur les Champs-Élysées. Et non, tout simplement, un très beau Mark Cavendish qui a bien tenu, qui a enchaîné les jours de course, des fois dans la difficulté. Et bah tout simplement, c'est mérité. Et oui, ça a été un joli plateau de sprinter, on va dire, sur ce Giro. Il y avait quand même beaucoup d'étapes qui étaient destinées aux sprinters. Et ça fait plaisir de voir quand même toute cette homogénéité au sein, on va dire, du peloton, quoi. Parce que ça fait plaisir de voir plusieurs équipes et plusieurs sprinters récompensés pour leurs efforts. On a parlé aussi des sprinters. On va parler maintenant des échappés. Parce qu'avant ce Giro, aucune échappée n'avait vu la victoire sur une course sur le Tour. Et bah, sur ce Giro, c'est pas moins de 10 échappées qui sont allées au bout. Avec Aurélien Paré-Pinte qui a ouvert le bal sur la 4e étape. Puis on retrouve David Ebaïs sur la 7e, Ben Eli sur la 8e. Suivi de son équipé Magnus Kort sur la 10e. On a eu un joli doublé de Nico Denz sur la 12e et 14e étape. Einer Rubio a remporté la 13e, McNulty la 15e, Zana qui coiffe Pinot sur la 18e et Buitrago sur la 19e. Quand on fait le compte un peu plus dans les détails, 7 étapes pour les sprinters, 3 chronos, 10 étapes pour les échappés, il a resté tout simplement une seule étape qui s'est jouée pour les favoris avec la victoire d'Almeida au Monte Bondone. C'est faible, peut-être même trop faible pour que ce soit un grand tour réussi. Certes, on aime voir les échappés gagner, certes, les échappés ont fait le spectacle, certes, les coureurs ont bien dominé sur les sprints, mais une seule étape dédiée où vraiment les coureurs du général se sont joués la gagne, c'est faible, c'est beaucoup trop faible. On va dire, à chaque fois, pour chaque étape, on souhaite quand même que le meilleur coureur gagne l'étape. On ne vise aucun coureur des échappés comme quoi ils étaient trop faibles ou pas, mais c'est juste qu'on s'attend quand même à voir aussi les favoris jouer la victoire d'étape parce que ça rajoute encore plus de prestige à la course. Et là, je trouve bah, que ça a été vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop faible.
Je suis d'accord avec toi, mais je prends un peu de recul dans le sens où des fois ça aurait pu être la même chose, sauf qu'on aurait eu 15 étapes pour les sprinteurs. Bon, j'abuse un peu. Mais il vaut mieux que ce soit comme ça avec 10 étapes pour les échappés que tu rajoutes 4 étapes pour les sprinteurs. Enfin, j'ai l'impression de parler du Tour de France il y a quelques années, même si ça s'est amélioré ces dernières années. Mais t'as tout à fait raison. Clairement, pour les leaders du général, enfin, c'est beaucoup trop faible. Ouais, c'est très passif et ça rajoute comment dire. Certains ont quand même un goût prononcé aussi pour la victoire, même s'il y a des secondes à les gagner qui sont plus importantes. Mais voilà, il y aurait eu plus de victoires qui se seraient jouées pour le classement général. Il y aurait eu plus il y aurait pu avoir plus de batailles aussi. Un petit peu plus en tout cas.
On passe maintenant aux Français, parce qu'il y a quand même eu pas mal de Français et des Français qui ont fait le spectacle durant ces multiples jours du Giro.
On va parler des Français, on est obligé de commencer par Thibaut Pinot, tu crois pas?
Bah, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de te dire. On a quand même été. Comme j'ai quand même été critique. Vas-y, je te la laisse celle-là.
Lucas était très critique, mais c'est incroyable. Moi, j'ai déjà la première chose qui me vient à l'idée, c'est d'aller sur la page Facebook de l'équipe. ou d'Eurosport, d'aller chercher les articles sur Thibaut Pinot avant le Giro et de leur demander s'ils n'avaient pas trop mal à la tête ou s'ils avaient besoin d'un rappel, parce que bah, c'est facile de critiquer Thibaut, hein, mais bah, regardez, il vous a tous fait fermer votre gueule. Et pourtant, ce serait hypocrite de dire que nous, on n'a pas été tout à fait pas trop critiques avant le Giro, parce que c'est vrai qu'on s'était dit, allez Thibaut, joue juste les étapes. Et au final, c'est incroyable parce qu'il a pu jouer les victoires d'étape, le maillot à poids et le classement général. Et ce qui est fou, bah, c'est qu'il a fini 5e du Giro. Et franchement, si on nous avait dit ça il y a un an et demi, Luca, qui aurait cru? Personne. Il était, enfin, avec ses problèmes de dos, et quand il revenait, il était clairement en manque de rythme, c'était difficile pour lui. Et regardez au niveau auquel il est revenu, c'est incroyable. Alors oui, on va pouvoir, enfin Luca s'expliquera, il sera sans doute critique, parce que c'est vrai que Thibaut n'a pas pu ramener une victoire d'étape. Mais je trouve qu'il a très bien terminé son histoire avec le Giro, clairement.
On va dire qu'il l'a très bien terminé, notamment avec son dernier chrono, où il sauve vraiment, oui je veux dire, il sauve les meubles dans le sens où il fait le chrono parfait pour rentrer et conserver sa 5e place. Même pour, on va dire, pour devancer Dunbar, mais ouais, enfin, ça a été un très beau Giro de sa part, on l'a vu souvent à l'attaque, mais malheureusement il a mal couru pour moi. Sur la première étape où il finit derrière Rubio, il persénère beaucoup trop facilement, il la joue pas assez tactique, ses pédales lui cassent le cerveau, et Rubio va remporter l'étape après, mais je trouve que on le savait qu'il était potentiellement même le plus fort de l'échappée. Il a un tempérament qui fait qu'il est souvent à l'offensive, mais là pour le coup c'était démesuré, il l'a pas joué assez finement tactique, et pour l'étape que Zana remporte, je trouve qu'il en fait trop encore une fois, il est tout le temps, c'est lui qui mène le lead sur l'étape, c'est lui qui lance le sprint, qui le lance peut-être même avec trop de vélocité. Je trouve que, on va dire, ce Giro est bon, très bon, mais avec une étape, il aurait vraiment pu être parfait. Il sauve les meubles avec son beau maillot de meilleur grimpeur. Il sauve les meubles en faisant aussi top 5 sur le Giro. Mais il faut pas oublier aussi que c'est un top 5 où il y a quand même des Remco qui abandonnent, Tao qui abandonnent. Certes, c'est on va dire, le jeu des grands tours, donc il y a aucun souci là-dessus. Et on va dire ces abandons font partie de la course. Mais pour moi, ça reste, on va dire, un top 5. C'est sa place. Il bat des Arensman, des Dunbar, des Lechtesund. C'est pas non plus des, enfin c'est pas la crème de la crème non plus, dans le sens où c'est sa place, mais pour moi il devait remporter quand même une étape. Il se devait de battre Zana et Rubio, qui sont quand même normalement un cran en dessous de lui. Zana a fait la course parfaite quand même sur la victoire qu'il remporte, mais pour moi ouais, il y a quand même une pointe de déception, parce que il y a un peu un goût d'inachevé quand même dans ce Giro.
Bah moi, ce qui me pose problème, c'est surtout sa première deuxième place. Clairement, il aurait dû jouer un peu plus. Alors, c'est désolé, c'est vulgaire, mais il aurait dû jouer un peu plus avec les couilles de Cepeda, déjà. Parce que Rubio, ce jour-là, il semblait pas non plus être dans une forme extraordinaire, parce que plusieurs fois, il était limite. Et au final, bah, l'embrouille Cepeda-Pinot, elle a profité à Rubio, et Rubio l'a joué finement, clairement. C'est dommage, il manque juste la cerise sur le gâteau. Ensuite, du côté des FDJ, parce que c'est vrai que la FDJ a fait un très beau Giro, on a Armirail qui a eu le droit à 2 jours en rose et de belles performances sur les différents chronos. Franchement, c'est un coéquipier modèle ce type, et ça a fait plaisir de le voir. De voir qu'il a eu son heure de gloire, parce que c'est vrai, un maillot rose sur le Giro, Luca, tu t'imagines toi avec? Purée, ça serait ouf. Donc clairement, c'était le petit coup de cœur de ce Giro, un coéquipier récompensé comme il se devait. Ensuite, on a eu le droit au duo Paré-Peintre, une victoire d'étape et de nombreuses échappées pour les deux. Ah, c'est des fois dans la famille, ça marche terrible pour l'un et pas pour l'autre, mais alors les deux marchent très fort et surtout ils sont jeunes, donc ça va être très intéressant de les voir évoluer. Ensuite, on a un autre Inchi qui était plutôt discret, parce que pas non plus des énormes résultats, mais par contre, qu'est-ce qu'il en a fait des échappés? Et c'est l'homme d'ailleurs qui a fait le plus d'échappés, c'est Thomas Champion. Thomas Champion, donc, qui aura beaucoup essayé, mais malheureusement, qui n'aura pas les jambes pour lever les bras. Mais ça aura été, je pense qu'il aura pris bien en expérience et ça lui servira pour la suite. Et enfin, petite déception du côté de Barguil, encore touché par le Covid juste avant le Giro. On a vu qu'il a été souvent très limite. En dernière semaine, il commençait à se montrer, mais il n'avait pas les jambes pour pouvoir aller jouer la gagne. Il fait quand même une belle troisième place, mais qui est encore trop peu par rapport à ses objectifs. C'est dommage, j'espère qu'on le verra un peu plus en forme sur le Tour.
Globalement, avec le plateau de Français présent, il était difficile de s'attendre à plus. On repart quand même avec le classement de la Fuga, le maillot de mer grimpeur, deux jours en rose, une étape et un top 5 au final. Il y a du bon, il y a du bon. Et on a hâte de voir maintenant ce qui va se passer sur le Tour de France. Mais pour finir sur ce Giro, on va parler un peu des révélations, parce qu'il y en a eu. Dans un premier temps, on va parler de Benelli. Confirmation et révélation quand même sur 3 semaines. Il démontre que les Ardennaises n'étaient pas des surprises. Il fait partie maintenant des coureurs qui ont un pic de forme infini. Certes, on doit peut-être un peu s'inquiéter. Ouais, c'était un bon junior. Bon espoir. Mais c'était pas non plus quelqu'un d'excellent. Et il explose complètement sur cette année. Très bien, très bien.
Moi, je pense qu'il va arracher des courses l'an prochain. Je pense qu'avec l'XP qu'il a pris cette année, il va s'envoler l'an prochain.
Jonathan Mulan, une énorme brute de puissance. Tu le mets avec un bon train, ça devient le meilleur sprinter du monde pendant 10 ans. Moi, dans son style, ça me fait quand même beaucoup penser à un jeune Marcel Kittel, mais qui passe quand même mieux les bosses. Il a fait sur ce Giro une victoire, 4 deuxième places. Le maillot cyclamen, un très très bon premier grand tour. Derek G, le mec sort littéralement de nulle part. Alors Benelli, certes, il sortait d'une barre, mais alors Derek G, c'est pire. Il avait rien fait en plus en ce début de saison. Bah voilà quoi, il surperforme sur 3 semaines, tout le temps échappé, énormément de deuxième place du meilleur meilleur sprinter, du classement des sprints intermédiaires et d'autres classements encore. Je sais pas trop quoi en penser, hein. Enfin, s'il était colombien ou russe, ça crierait au scandale, je pense. Mais bon, bravo à lui, c'est un premier grand tour et une première course au plus haut plan, comme on a rarement vu, quoi. Moi, ça m'a fait repenser à Marc Padoun sur le Dauphiné où je saurais même pas. En vrai, j'ai jamais vu vraiment le souvenir d'un mec comme ça sorti de nulle part et qui écrase autant la course.
Ouais, qui écrase, mais surtout qui fait deuxième des points de sprint et deuxième des points de la montagne. Alors, il y en a un qui s'appelle Wout Van Aert, mais on sait que c'est un extraterrestre. Mais alors, un inconnu qui arrive à être aussi proche des deux maillots, qui pourtant demandent des qualités si différentes. Ouais, je sais pas.
Et sinon, on a Marco Frigo qui, lui, sort quand même de bonnes années d'espoir et qui confirme ces années-là. C'est une des révélations du Giro également. Malgré ses lacunes en descente, il a montré de très belles choses quand la route se montait en échappée. Ça reste donc G et Frigo, deux jeunes d'une formation israélienne que l'on qualifie souvent de maison de retraite. Et là, on peut voir quand même que la formation a du bon. Donc on leur souhaite bonne chance pour la suite.
Ensuite, Dumbar, qui pour sa première année en leader unique de sa formation, démontre de superbes choses et prouve que son choix de carrière a été le bon. Parfois la patience est bonne et dans la carrière c'est pas toujours facile parce qu'on sait que chez les cyclistes ça peut aller très vite. Très content de voir un de nos One to Watch marcher terrible en tout cas. Je pense que ça va être sa progression, il pourra pourquoi pas viser un top 5 l'an prochain sur un grand tour.
Et en parlant aussi de la formation de Jayco Alula, on peut aussi noter la belle performance globale sur ce Giro de Zana, le champion d'Italie qui remporte du coup une belle étape devant Thibaut Pinot, qui était aussi un solide équipier aux côtés de Eddie Dunbar. Donc à voir s'il peut encore monter d'un cran, mais c'est sûr que dans un pays qui est l'Italie, qui cherche encore un successeur à des Nibali ou même par exemple à Caruso qui a encore 37 ans mais qui termine quand même 4ème de ce Giro, qui a d'ailleurs été quand même très discret mais très régulier comme à son habitude, On cherche quand même un successeur et pourquoi pas Zana à l'avenir chercher un top 5 quoi. La question maintenant c'est de voir à la fin de l'année si on retiendra vraiment quelque chose de ce Giro, parce que ça a été un Giro quand même qui a été assez particulier dans la façon dont il s'est déroulé, qui a quand même été très frustrant. On se souviendra sûrement de la victoire de Primoz Roglic, mais est-ce qu'on se souviendra vraiment du reste? Ça, c'est encore une autre question. Et pour cela, réponse dans 6 mois. Allez, c'est tout pour Dossard 13. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.